Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis le Roi de le plus nouveau maire de Lille, puisque j'ai été élu hier soir à la conseil municipal. Donc, je succède à Alain Bertrand et j'ai l'honneur, le plaisir de vous trouver cette séance sur les états généraux du rail de l'intermodalité. Je pense qu'au fil de la discussion et de la soirée, vous allez comprendre tout l'enjeu qu'il y a pour le département de la Lozère, qui est un département, comme dit le sénateur maire, hyper rural, avec les usages de port ici. Donc je voulais remercier un certain nombre de nous présents dans la salle, donc M. Gérin, qui est vice-président au côté régional, qui nous fait dans le centre de effectivement Gérard aussi, donc, qui est président de la commission, au côté régional. Je le remercie, qui est un voisin, Véroné. Roly Maillot, bien sûr, qui est ma bonne, et qui est un avocat, donc je remercie et je félicite aussi d'être là. Sophie Patel, qui est du conseil départemental, ainsi qu'un certain nombre d'élus du département, Robert Hivoy, je vois Francis Cortès, j'ai vu Henri Boyer aussi, le maire de. Et je salue également certains autres élus du territoire, Francis Castan, Jean-Michel, Michel Fessier, j'ai oublié certains noms, je m'excuse. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous ouvrir cette séance. Je vous remercie pour la qualité de l'échange que nous allons avoir avec ça. Merci.
Merci, monsieur le maire, pour ce bon accueil. Bonsoir à tous et à tous. Permettez-moi un petit peu, en préambule, de mettre en exergue un petit peu, effectivement, l'objectif de ces états généraux du rail, en tout cas, comment ils vont être menés. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit effectivement une grande consultation citoyenne efficace. Donc, Madame la Présidente l'a évoqué lors de l'ouverture des états généraux du rail sur la première réunion publique à Cadenas. C'est clair que cette nouvelle région va nous amener, nous, des élus aussi avec vous, à réfléchir aussi sur des nouvelles politiques. Réfléchir sur des nouvelles politiques, il nous semble important, et c'est tout l'objet de ces états généraux du rail, c'est qu'il faut être à l'écoute, bien évidemment, de toutes les personnes concernées, que ce soit les élus, que ce soit les syndicats, que ce soit les utilisateurs, mais aussi réfléchir par rapport aux non-utilisateurs, pardon, les financeurs, l'État, la SNCF. Ça, c'est un premier point. Il faut que toutes ces personnes-là puissent contribuer et participer activement à ce moment démocratique, à cette grande concertation. Le deuxième, qui n'est plutôt qu'un constat, c'est que ces états généraux du rail ne doivent pas être non plus une simple confrontation, c'est-à-dire soit une vision passéiste ou une vision binaire, mettant en confrontation la LGD contre le TNT, mettant les autocars contre la Dakar. Loin de nous, cette idée, pour la simple bonne raison, c'est que M. Genère, tout à l'heure, évoquait la ruralité. Notre nouvelle grande région est riche, effectivement, de sa bipolarité Montpellier-Toulouse, mais est aussi riche et diversifiée par sa ruralité et hyper-ruralité. Et Madame la Présidente, pendant cette campagne électorale, ainsi que nous-mêmes avons été clairs, l'idée est bien d'amener le même service, en tout cas de prendre vers une égalité de service sur l'ensemble de ce nouveau territoire, avec différents moyens qui pourront être mis à notre disposition. La mobilité doit rythmer aussi l'attractivité et la solidarité. Bien évidemment, ça nous paraît évident. Et si déjà on peut faire un constat, nous ne partons pas d'une page blanche. Nous avons effectivement l'arrêt ferroviaire du littoral, mais aussi on a bien évidemment notre étoile ex-Midi-Pyrénées, qui sont déjà un réseau conséquent, un réseau de qualité, et il faut qu'on s'inscrive, je crois, dans ce développement, dans le développement de ce dernier, l'améliorer, le densifier et surtout, bien évidemment, le moderniser afin qu'il réponde au mieux aux attentes de nos administrés, mais aussi aux attentes des élus, de nos partenaires, des syndicats, des cheminots et encore une fois, toutes les personnes qui peuvent œuvrer activement à l'amélioration ou au maintien du ferroviaire. Alors ces états généraux du rail, très rapidement, Je vous l'ai dit tout à l'heure, en Cambure, ils ont été ouverts le 21 avril à Cadenac, donc en présence de Mme la présidente Caro Dega, et ceux qui auront, je pense, le 9 juillet prochain, 7 juillet. Voilà. Donc, ce qui représente 80 jours donc, de concertation, bien évidemment, vous allez pouvoir, via le questionnaire, via les réseaux, vous exprimer, amener aussi vos contributions. 80 jours sur lesquels le comité de pilotage ainsi que la région a souhaité mettre en place 36 réunions publiques dans les préfectures et les sous-préfectures. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ici donc, en Mende. Et l'idée donc pendant ces 80 jours, c'est bien de parler entre autres du développement des trains du quotidien, de l'avenir de la grande vitesse, de l'essor de l'écomobilité, de l'intermodalité, encore une fois, tout ce qui touche de l'ouest ou de près au ferroviaire. Voilà. Voilà un petit peu dans quel état d'esprit nous inscrivons. Et bien évidemment, il faut bien qu'une personne fixe quelques règles. Alors ce soir, ça sera moi. Déjà vous dire que dans l'organisation de cette soirée, va être projeté un petit film de 3 minutes qui va un petit peu caler, fixer les thématiques de départ, mais aussi voir quelles sont les interrogations des uns et des autres des utilisateurs par rapport aux ferroviaires. Et bien évidemment, pour que ce temps d'échange soit efficace, permettez-moi de mettre en avant quelques règles de concertation. Alors, bien évidemment, l'idée n'est pas d'avoir de sujet tabou, l'idée n'est pas que vous repartiez dans vos poches avec des questions sur lesquelles nous n'aurons pas répondu. Sachez bien aussi que les uns et les autres ici présents n'allons pas être forcément en mesure de vous amener des réponses, nous n'allons pas être forcément en mesure de vous donner quelle sera la position de la région, en tout cas on vous amènera quelques éléments, mais pour la simple et bonne raison, c'est que ces états généraux du rail doivent conforter, confirmer ce que sera le maintien et le développement du ferroviaire dans les 10-15 ans à venir. Et si la région devait se positionner dès ce soir sur le sujet bien précis, à mon avis, ça mettrait en péril la pertinence du questionnaire et la grande réputation citoyenne que nous avons fixée. Donc, ce que je vous demanderai éventuellement, ce que nous vous demanderons, pardon, c'est que, à chaque intervention, vous puissiez vous présenter nominativement. Si vous représentez une structure, une organisation, une association, faites-nous le savoir de manière à ce qu'on puisse effectivement avoir un compte rendu exhaustif et essayer bien évidemment de mettre en relation l'intervenant et le contenu de l'intervention. Toujours par rapport à cette organisation, vous allez voir que 5 thématiques vont défiler un petit peu sur le débat d'aujourd'hui. Je vais rapidement vous les lire. Le premier, donc, les trains TER et les autocars régionaux. Le deuxième, les trains intercités. Le troisième, la ligne à grande vitesse, les gares et le choix du train. Alors, nous commençons à avoir un petit peu d'expérience par rapport à toutes ces réunions publiques. On s'est dit qu'effectivement, nous allons fixer un certain timing entre 15 et 20 minutes pour chaque thématique. Mais vous allez vite vous apercevoir que dans toutes vos remarques qui seront pertinentes, il y a forcément de la transversalité dans toutes les thématiques que je viens de vous dire. Donc, nous allons essayer de gérer au mieux, et moi-même. Nous allons essayer à être efficaces, aussi à faire en sorte que vous ne repartiez pas frustrés de cette réunion, encore une fois. N'hésitez pas à poser toutes les questions utiles, nécessaires. Encore une fois, nous n'aurons peut-être pas forcément réponse à tout, nous ne pourrons pas non plus nous positionner sur tout, mais on pourra quand même vous amener quelques éléments qui pourront être concrets et alimenter vos attentes. Voilà ce que j'avais à dire en introduction. Salut Aurélie, un mot Aurélie ou pas dans les débats. Très bien. Donc si vous voulez bien, nous allons nous projeter le petit film de 3 minutes et ensuite nous pourrons donc engager les débats. Merci.
Bonjour, pour travailler sur la mobilité en région, voilà ce que proposent les états généraux du rail et de l'intermodalité. Le but de cette consultation citoyenne, lancée par la région Languedoc-Roussillon-Mille-Pyrénées, récolter un maximum d'informations pour construire le transport de demain.
À travers les états généraux du rail, nous allons discuter avec les usagers du train, avec les syndicats de cheminots, avec aussi nos partenaires financeurs, l'État, la SNCF, et de pouvoir travailler ensemble sur la feuille de route pour les 15 prochaines années sur les investissements dans les lignes de rail.
Autre programme de cette consultation citoyenne, 36 réunions publiques dans 13 départements et des milliers de questionnaires à remplir aux thématiques variées, comme par exemple les tarifs, l'aménagement des gares, mais aussi les freins à l'utilisation du train. Un enjeu majeur pour la région qui a investi près de 3 milliards d'euros à la fois sur le matériel, le fonctionnement des TER et sur la rénovation du réseau ferroviaire afin de faciliter le transport des voyageurs et du fret.
Je prends le TER matin et soir pour aller au travail.
Si avant, on pourrait imaginer que l'essence serait plus rapide.
Avec une fréquence peut-être un tout petit peu plus élevée. Il
devrait avoir accès à Internet, avec les tablettes, pour que je puisse faire les démarches administratives. Comme ça, il y a une gagne de temps. Au niveau, comme on travaille toute la journée, on n'a pas pu faire les démarches. Ce serait parfait.
Je ne prends pas le train, tout simplement parce qu'on est nombreux avec les enfants. Donc on prend la voiture, on change de voiture, et c'est plus simple pour nous que de prendre le train.
D'ici 20 ans, j'imagine le train beaucoup plus propre.
Ouais, j'ai quand même pris des vieux et des nouveaux TER, et ceux-là, ils sont très confortables, il n'y a rien à dire.
J'habite dans un petit village à proximité de Montpellier, et c'est vraiment la galère pour venir rejoindre la gare.
En attendant mon bus, j'aimerais bien avoir un petit box chauffé avec la télé, la musique.
34 euros par mois, ça fait 1 euro par jour pour faire autant d'aller-retour jusqu'au travail que je veux, c'est super raisonnable.
J'ai 23 ans, dans 20 ans j'aurai 43 ans, j'aimerais que le train soit moins cher. Enfin, c'est moins cher et moins cher, c'est moi. C'est bien ça.
Le tarif est pas mal, après le train est toujours moins cher, mais un tarif unique, ouais, pour tout le monde, comme un ticket de métro, et puis en avant, voilà.
L'accès ok n'est pas toujours évident avec une poussette parce qu'il n'y a pas l'ascenseur. Donc voilà, il faut trouver quelqu'un qui nous file un coup de main ou se débrouiller comme il peut.
On aimerait bien qu'il y ait d'autres casiers de l'autre côté du quai parce que quand on revient, ben, déjà ça nous offrirait plus de place pour garer les vélos et ça inciterait les personnes à utiliser moins de voitures.
Il faut différencier le TER du TGV. Le TGV aujourd'hui à Toulouse est absent, donc c'est bien regrettable et on espère tous, je pense, qu'il arrive.
Ce serait pas mal d'avoir des liaisons plus rapides entre Montpellier et l'ouest de la France.
Le souhait, c'est que tous les camions d'ici une vingtaine d'années soient sur des rails pour désengorger un peu toutes les autoroutes. Quoi. Voilà, je pense que dans le passé, mais enfin, je pense que ce serait quand même une bonne chose.
La restitution de ces états généraux qui est prévue pour septembre 2016 et permettra de définir pour la région Languedoc-Roussillon-Mille-Pyrénées les priorités, le cadre d'action et fixera un cap pour la politique régionale du rail et de l'intermodalité. Voilà. 80 jours pour donner votre avis sur la mobilité en région, voilà ce que propose.
Oui. Bien, donc comme Stéphane nous l'a indiqué, propose que sans plus tarder, on commence par le premier thème. Il s'agit donc des trains TER et des autocars régionaux. Donc n'hésitez pas, le premier ou la première qui souhaite intervenir, vous levez la voix, il y a deux micros et vous présentez, on peut y aller. Sur le côté, puis après il y a la monsieur. Allez.
Bonjour.
Allô.
Oui.
Marc Doutoubros, du collectif des usagers de transport du Haut-Allier. Donc la section comprise entre l'Angogne et l'Angeac-Courtevoir, à cheval sur deux régions. Concernant simplement un petit problème qui démontre un petit peu la difficulté de gestion des zones frontalières, et notamment du Haut-Allier qui est. Les gorges hôteliers qui est enclavé entre les deux régions et qui intéresse un peu moins, c'est puisqu'on a un cheval entre la ligne Mende-Montpellier et le Puy Clermont-Ferrand. Simplement, par exemple, l'inexistence pour la gare de Chevaux-Roux, Langogne, le Luc, du tarif à 1 euro, qui a été pourtant. Mise en avant par la région, et qui, encore sur le site, TVR 1 euro figure. Donc voilà. Je voudrais peut-être intervenir ensuite sur d'autres problèmes.
Pas de problème. Il y a deux personnes là. Après à côté, Michel.
Michel Alecton, je suis le maire de la commune de Vélas, vice-président de la communauté de communes des Cévennes-Mont-Auxerre. J'ai sur ma commune un collège qui reçoit des pensionnaires qui viennent d'être des partisans et qui utilise le rail jusqu'à la gare de Gémac. Dans le film que nous venons de voir, les questions qui se posent les interviewés, c'est dans le temps, comment souhaite-t-il que le train soit, que le transport ferroviaire soit. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit encore. Et qu'il soit encore, je pense qu'il y a un combat réel à mener, aussi bien par les élus des territoires que par les élus de la région. On a face à nous, vous le savez, une entreprise qui a des intérêts peut-être différents que ceux de notre territoire. Et il me semble évident que la première démarche à engager au niveau du transport ferroviaire sur notre territoire, c'est effectivement la pérennité de celui-ci.
À côté.
Oui, bonjour à tous. Moi, je prends Perrimont. J'interviens au titre du collectif citoyen de défense de la gare de Villefort. Nous avons rédigé une contribution que nous vous remettrons et qui a obtenu le soutien de la communauté de communes de Villefort. Donc, il y a bien sûr l'idée de défense de la ligne des Cévennes à travers évidemment le statut de TET du Cévenol, mais bon, ça viendra après, et qui est absolument important, bien sûr. Mais pour nous, il y a deux points qu'il faut insister pour éviter la mort par asphyxie de cette ligne qui semble bien être quelque part la stratégie de la SNCF. Et les deux points, c'est les guichets. Nous nous sommes battus pendant un an pour réouvrir les guichets de Villefort. Et il y a le deuxième sujet, c'est le remplacement quasi systématique, ou en tout cas très fréquent, des trains par des bus, qui est très pénalisant également. Alors, je développerai rapidement les deux points. Sur le guichet de Villefort, la décision a été prise à partir du 1er janvier 2015, de même que pour les guichets de Génolac et la Grand-Combe, fermeture. Fermeture d'autant plus absurde que l'agent SNCF reste en gare et pour assurer la circulation. Ce qui fait que cette fermeture du guichet, alors il n'a plus le droit de vendre des billets, il n'a plus le droit d'informer les usagers, mais il est toujours là. Donc globalement, pour la SNCF, il n'y a aucune économie générée par cette fermeture, puisque l'agent est toujours payé. Simplement, il y a moins de services pour les usagers. Et là, c'est encore plus pénalisant pour un territoire comme Villefort, parce que les solutions envisagées par la SNCF, c'est-à-dire prendre des billets sur Internet, sur un territoire comme le nôtre, ce n'est pas pertinent car il y a de nombreuses zones blanches Internet et un profil de population qui n'est pas tout à fait branché informatique. Donc voilà, une grosse situation difficile. On a, par une forte mobilisation, réussi à faire réouvrir légèrement ce guichet, mais une réouverture au chagrin, dont on peut penser qu'elle ne sera pas pérenne. Nous ont donné une notion d'expérimentation pour un an, et on voit bien qu'avec une ouverture seulement quelques heures par jour, pas le week-end, enfin bon, dans ces conditions, c'est sûr qu'on voit bien l'issue. Et donc, ce que nous demandons, c'est une réouverture pérenne, 7 jours sur 7, sur le temps de présence des agents en gare de ce guichet, une ouverture pleine et entière. Et nous souhaitons que cette ouverture fasse, comme d'autres, ouverture de guichet, figure explicitement dans la nouvelle convention, ce qui est possible. Et c'est la seule manière, à notre avis, de proposer un garde-fou pour éviter que la SNCF n'en fasse qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'il faut que les ouvertures de guichet des gares régionales figurent dans la convention explicitement. Et deuxième sujet, sur les bus, actuellement, de très nombreux jours, les bus remplacent des trains de manière souvent impromptue, ou pour des raisons de travaux, enfin pour des raisons très diverses, mais c'est très souvent. Et il y a même cet hiver, il y a eu beaucoup de trains de Clermont, là, jusqu'à Clermont, qui remontaient ou qui descendaient, qui étaient remplacés par des bus en plein hiver. Donc évidemment, c'est très pénalisant pour les usagers et au final pour la ligne, parce que du coup, ça décourage complètement les gens de prendre le train, d'autant qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance. Les agents en gare ne savent même pas pourquoi. Parfois, le bus remplace le train. Et donc, c'est plus long, c'est plus dangereux, les routes sont complètement tortueuses, c'est tout à fait inconfortable. Les temps de trajet sont tout à fait aléatoires. On arrive à Nîmes avec une heure de retard, évidemment, pour les correspondances, c'est plus à peine. Enfin, dans ces conditions, on comprend que, du coup, les gens ne prennent plus envie de prendre le train. Et c'est peut-être, quelque part, l'envie de la SNCF, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de clients sur cette ligne et qu'à terme, ils puissent la fermer.
Monsieur sur le côté, là, monsieur.
Oui, bonjour, Frédéric Audéphal. Moi, je suis cheminot, élu au comité d'entreprise SNCF, donc Midi-Pyrénées. D'abord, vous remercier pour l'accueil ici à Manda. Et puis, vous dire que notre comité d'entreprise en Midi-Pyrénées travaille avec le comité d'entreprise de Languedoc-Roussillon sur la nouvelle région, la nouvelle convention et les liens qu'il faut tisser entre ces deux régions. Alors, il y a celui qui paraît évident pour quand on regarde la carte régionale, c'est Toulouse-Montpellier, mais à notre sens, c'est d'autres liens. Il y en a un qui passe au sud, Toulouse-Perpignan, par le Trait-Jaune, mais il y a aussi sur les territoires du Nord, qu'on appelle la Croix du Nord. C'est la relation qu'on peut imaginer entre Mende et Toulouse, en passant par Sévérac et Rodez, et de notre côté, de faire Brive, Cadenac, Rodez, Béziers, pour relier, en gros, ces départements aux deux nouvelles métropoles. On a estimé un petit peu les temps de parcours. Aujourd'hui, Mende-Toulouse, on peut le faire en 4h50 si on s'appuie sur le réseau existant. On peut passer à 87 si on s'appuie sur les trains accélérés qui étaient prévus être mis en place entre Toulouse et Rodez à 1958, et on peut atteindre les 80 si on rétablit les équipements qui étaient en place à Sévérac-le-Château pour éviter de faire des manœuvres intempestives, et si on investit sur la voie afin de lever les limitations actuelles ou celles à venir, puisqu'on nous parle de entre Rodez et Sévérac pour défaut d'installation. D'abaisser la vitesse à 40 km/h sur 20 km, donc ça pose de manière très pointue l'avenir de ces infrastructures. Si ces réalisations-là sont faites, on peut atteindre un temps de parcours de 4 heures. En desservant Marvejol, je précise bien, en desservant, en faisant le crochet jusqu'à Marvejol. Voilà. On peut aussi imaginer pour Mende des correspondances à Rodez avec le train de nuit. Relier Paris et Mende, c'est quand même un peu la croix et la bannière, je dirais, à moins d'avoir une bonne automobile. Ensuite, donc, l'état de l'infrastructure, bon, j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc il y a besoin, on vous alerte de manière forte là-dessus. Un autre point, c'est aujourd'hui, pour avoir le basculement sur les transports en commun et le train, pour l'usage du train, il y a plusieurs leviers, il y en a trois. Donc il y a les temps de parcours. Il y a le cadencement, la fréquence des trains, et enfin, il y a le levier tarifaire. Bon, sur le territoire lozérien, le cadencement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a actuellement. Les temps de parcours, bon, ils peuvent être grandement améliorés. Il reste la question tarifaire, et dans ce cadre-là, ce que nous portons, c'est qu'on actionne de manière plus incitative par une tarification volontariste ces zones qui ne sont pas desservies avec le train toutes les 10 minutes avec une tarification disponible au guichet et en gros sur tous les canaux parce qu'ils ne sont pas spécialisés uniquement sur internet. Dernier point par rapport à la qualité de l'offre, on a l'exemple à Midi-Pyrénées aujourd'hui. La qualité de l'offre, elle dépend énormément de l'organisation des travaux pour réaliser un entretien courant qui est pourtant réalisé sur une voie qui a été refaite à le plan rail. Or, aujourd'hui, la SNCF organise la maintenance de jour, alors que la nuit, il n'y a aucun train de marchandise qui passe et les cheminots sont disponibles pour travailler de nuit. Donc, aujourd'hui, on a régulièrement des trains qui ne roulent pas à cause de maintenance de réseau neuf. Alors, il faut faire la maintenance, je ne dis pas ça, mais on peut l'organiser différemment. C'est des choix sur lesquels la région pourra peser également. Merci.
Merci. Donc, Sophie Pantagieu, présidente du conseil départemental de la Lozère. D'abord, moi, je voulais vous remercier, Jean-Luc, Stéphane et Aurélie, d'être là, et évidemment, Carmen Dalia, qui, par ces différentes réunions, répond quand même à une promesse électorale. Et vous avez organisé cette consultation dans un délai quand même très rapide. Donc, pour nous, c'est quand même le signe d'une volonté politique forte par la nouvelle majorité régionale de travailler sur la question du rail et au-delà de l'intermodalité. Je voulais commencer quand même par le rappeler. Alors vous avez, c'est un peu saucissonné les thématiques, mais bon, je vais essayer, je vais vous en dire un peu, puis je reprendrai la parole après. Avec mes collègues, on a préparé aussi une contribution qui est là et que je vous remettrai. Alors il y a beaucoup de choses que nous t'avons déjà dit lorsque tu es venu à Mende, et donc on a déjà pu échanger avec Jean-Luc et avec Aurélie. Mais moi j'ai eu un peu, quand j'ai vu le film, là, j'ai eu exactement la même réaction que Michel Redon, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, ils sont en train de demander des améliorations de service, nous, on est en train de se demander si on aura encore des trains. Et un sentiment d'abandon quand même sur notre territoire, dans le domaine du rail, qui est très important. Et vous le verrez dans la contribution, on la mettra aussi sur le site du département, donc chacun pourra aussi aller la lire. On a commencé par un état des lieux, parce qu'en Lozère, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de ligne en grande vitesse, il nous reste deux TET, on se bat pour les conserver, il nous reste quelques lignes TER et il nous reste la route. Et dans la route, on a évidemment la RN88 qui est très importante pour desservir tout le reste du territoire, et puis la 106 sud aussi au niveau du désenclavement. Voilà. Alors, je crois que ce qu'il faut aussi, c'est redonner un peu du sens pourquoi des transports collectifs et pourquoi le rail dans un département comme le nôtre. Et vous verrez, on a essayé de développer ces aspects-là. Donc, il y a d'abord la question de la sécurité. Ça a été dit par les représentants cheminots. En zone de montagne, l'hiver, c'est quand même le moyen le plus sûr de circuler. C'est aussi le moyen, c'est aussi une desserte pour le fret, notamment le fret du Massif central. Et il y a quand même des orientations fortes sur la filière bois. On a besoin de conserver ces lignes-là. C'est aussi permettre de lutter pour plus de pouvoir d'achat, puisque dans des zones comme les nôtres, sans transport collectif, c'est un minimum de voitures par famille, donc ce sont des coûts supplémentaires. Et puis, je crois que ce qui est important sur les TER, alors nous on se pose des questions sur la tarification, à 1 euro, c'était peut-être bien, mais si on n'a pas les moyens de le généraliser sur toutes les régions, enfin sur les deux anciennes régions, sur la nouvelle région, on se dit qu'il vaut peut-être mieux avoir un tarif plus adapté, mais qui soit le même pour tous, qui n'est pas... quelque part ces différences. Sur les TER, on peut insister aussi lourdement sur le maintien des guichets de gare. Le représentant du collectif de Villefort l'a dit, mais réhumaniser nos gares. Donc ça, c'est important. Insister aussi sur les besoins d'investissement sur les lignes. Alors, il y a des choses qui ont été prévues dans les contrats de plan État-région, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le cadencement, il n'est pas à son maximum. Aujourd'hui, on met plus de temps pour aller à Montpellier que ce qu'on en mettait il y a 20 ans. Donc, on marche quand même un peu sur la tête. On a de gros problèmes aussi sur l'information. Il y a quand même une information un peu illisible sur les TER, mais pas que sur les TET, c'est pire, puisque quand vous voulez acheter un billet TET sur l'Aubrac ou le Cévenol, en tout cas sur le Cévenol, j'ai fait l'expérience moi-même. Sur Internet, on pouvait passer par la vallée du Rhône en nous disant que la ligne n'existe pas et on pouvait remonter par un TER. Donc il y a une vraie volonté de désorganiser ces services-là de la part de la SNCF. Et puis quant au bus, ça a été dit aussi, les bus en remplacement du train, combien de fois, et on est quelques-uns dans cette salle, à être restés en rade, pas avoir eu les correspondances, et on pourrait continuer encore longtemps. Voilà ce que je vais vous dire rapidement sur les TER.
Je profite juste avant de passer la parole à Samir, parce que déjà deux intervenants ont fait allusion et je veux tout de suite le préciser. Stéphane a indiqué, vous avez le questionnaire qui a été posé sur les chaises, il est actuellement disponible sur le site internet de la région et vous avez vraiment à le remplir, mais vous avez aussi la possibilité sur le site et évidemment dans les rencontres publiques on les récupère, de nous remettre des contributions, puisque cette phase d'écoute, elle passe par la phase des rencontres publiques, elle passe par la phase du questionnaire, et elle passe par la phase de la remise de contributions, de façon à ce que nous puissions avoir la volonté exprimée par la population de manière la plus large possible. Donc n'hésitez pas à nous remettre des contributions sur tel ou tel aspect, des éléments que vous voulez voir apporter dans le cadre de ce travail que nous avons mené à la suite de la phase d'audition et d'écoute qui se terminera début juillet pour pouvoir aller après sur la phase de restitution au cours de l'automne prochain. Il y avait une personne là, je crois, voilà, donc après, on est dedans.
Oui, merci de me donner la parole. Jean Bescure, président de la communauté de communes de Villefort. Donc, je ne rajoute pas un mot à ce que M. Merlon a dit tout à l'heure concernant Villefort. Il l'a dit, la communauté a d'ailleurs travaillé sur ces éléments et nous les soutenons. Je voudrais saluer votre initiative d'organiser ces états généraux du Rhin parce que je pense que c'est très important. Le président nous disait qu'on avait un sentiment d'abandon. C'est vrai, en Lozère, ça fait des années qu'on a un sentiment d'abandon parce qu'on voit nos dessertes se détériorer inexorablement et on n'a pas d'interlocuteur. C'est très difficile d'avoir un interlocuteur. On a vécu des années avec une convention qui n'était sûrement pas assez claire où la région nous disait que la SNCF ne voulait pas faire, où la SNCF nous disait que la région ne voulait pas payer. Je caricature, mais c'était un peu le discours qu'on nous renvoyait. C'est très, très difficile d'avoir un interlocuteur au niveau de la SNCF aujourd'hui. Alors peut-être déjà une première recette, ce serait de mieux se connaître, de se rencontrer régulièrement et de renouveler ce qui existait auparavant, les comités de ligne. Les comités de ligne, c'était quand même des moments qui permettaient de faire un petit peu un point, de se rencontrer, d'évoquer les problèmes, peut-être d'ébaucher des solutions. Ça ne se passe plus, c'est regrettable. Donc, vraiment, il faudrait essayer de retisser un lien de confiance. Et je crois que la région, en renégociant cette convention, doit vraiment avoir à l'esprit cette nécessité. Vous dire quelques petits mots sur un exemple d'intermodalité qui fonctionnait bien sur le secteur de Génolac et de Villefort et qui a été malheureusement supprimé il y a 3 ans, c'était un service de rabattement sur les gares que la SNCF avait mis en place à la fermeture des gares de Combloux-Pontet et de Prévenchères. Ça a fonctionné pendant 10 années, ça fonctionnait bien, ça ne représente pas des fortunes et ça permettrait de rabattre dans un milieu très rural, avec des populations qui restaient quand même assez hercelées, plus de 2500 personnes chaque année sur les gares les plus proches pour permettre aux gens de prendre le train. Je crois que c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait faire demain pour essayer de faciliter cette intermodalité. Je vous remercie.
Devant, au premier rang, et puis ensuite...
Francis Castan, maire de Bagnols-les-Bains et en même temps hôtelier. Je suis hôtelier, donc c'est. La SNCF, pour moi, c'est un problème récurrent depuis plus de 30 ans. Et je râle parce que j'ai oublié un article. Elle fait paraître comme des livres, une fois, j'ai poussé une bonne gueule, je crois, c'est SNCF, il y a 30 ans. Et là, de Montpellier, c'était infirmenté en voiture. Donc, ce que je voulais dire, pour compléter les propos de Mme la Présidente, quand je le disais tout à l'heure que par Internet, c'est impossible d'avoir un billet Paris, Clermont-Ferrand, Langon, Bagnols-les-Bains, la bastide Bagnols-les-Bains. C'est exact, et c'est pire. Vous allez à la gare, avant c'était la gare de Lyon, maintenant c'est ailleurs, vous demandez le même billet, le train est taqué, et on vous dit qu'il n'existe pas. Et ça, c'est un vécu que je fais 2 fois par an. Quand je vais à Paris, je perds mon temps à faire la queue pour prendre un billet. Je me dis, c'est impossible. Évidemment, passer par le TGV libre pour monter. Il ne faut pas que le TGV ait 10 minutes ou un quart d'heure de retard, sinon le client il reste soit libre, soit à l'aise. Là, il fallait le récupérer en voiture. Ça fait 3 heures de voiture aller-retour. Vous imaginez, pour travailler dans ces conditions, alors que nous recevons à peu près entre 600 et 700 clients par an, et une passée une semaine et qui arrive par train, parce que c'est une clientèle individuelle. Ce que je voudrais rajouter également, c'est que la région a fait de gros efforts, et c'est vrai que les machines, tout ça, aujourd'hui, c'est du top. Personnellement, je le prends assez souvent pour faire notre petit H losérien, c'est-à-dire membre de la Bastide. Et c'est vrai que c'est au niveau confort, il n'y a rien à redire. La SNCF, Réseau Ferré, a fait des efforts à changer les traverses, comme une ancienne traverse de béton, mais le train est toujours limité à 25-30 à l'heure. Alors qu'il pourrait circuler 50-60. Il y aurait beaucoup de choses à dire, des exemples, comme tous. J'en ai coupé les sommets. J'en ai reçu au départ et dimanche, vous avez fait
ça. Bien, monsieur.
Donc, bonjour, moi je suis Nicolas, donc je suis Chimot, CGT. Donc, voilà, moi je voudrais vous parler tout à l'heure d'égalité, qu'il n'y avait pas que Montpellier et Toulouse. Et si on vient d'un endroit où la SNCF est sinistrée, c'est un loser. Ici, on met un petit bout de la ligne des Cévennes, toutes les lignes sont en ralentissement au niveau des infrastructures. On ne roule plus aux vitesses d'origine. C'est du 50 à l'heure sur Vanassac Marmejol, c'est du 60 à l'heure entre Marmejol et Mende. Voilà. Alors, ajouté à cela, il y a la fermeture des guichets qui a été évoquée. Aujourd'hui, les gares lausériennes, par exemple Mende, préfecture de Lozère, ses guichets fermés le week-end. Alors qu'un agent est présent en gare. Bon, ça, c'est à discuter après. Donc voilà, aujourd'hui, l'état de fait, c'est qu'on est sinistré, les gens se sont éloignés du train, et que ça ne va pas être facile de lui remettre dedans. Donc aujourd'hui, je tiens à féliciter la région et à la remercier surtout de nous donner la parole pour pouvoir nous exprimer et nous écouter. Et ce que j'aimerais ici, c'est que ce n'est pas des réponses précises, mais c'est d'avoir des visions. Et moi, il y a quelque chose que je propose un peu partout, c'est pas mes premiers étages, les niveaux du rail, ce ne sera pas mes derniers, mais il y a quelque chose qui peut relancer le rail, c'est que vous allez avoir la charge du transport scolaire à partir, je crois que c'est la prochaine rentrée ou la rentrée d'après. Donc voilà, c'est que l'idée, ça serait d'avoir la vision, est-ce que vous la partagez? Notre vision, c'est que partout où il y a une voie de chemin de fer, eh bien que les élèves utilisent le train. Ça serait déjà... ça ferait partie de l'éducation. Je veux dire, c'est éduquer nos jeunes à prendre le train et peut-être avoir ce réflexe-là dans 10 ans, que les gens n'ont plus aujourd'hui, puisqu'ils ont été éloignés du rail, c'est de même, voilà, quelqu'un qui aura pris toute sa jeunesse le train pour aller à l'école aura peut-être le réflexe que les autres n'ont plus. Pour réutiliser ce train. Alors moi, je pense par exemple à Marvejol-Mende, je pense qu'il y a d'autres lignes possibles. Et après, on est aux états généraux du rail de la multimodalité. Alors ici, sur la ville de Mende, on a la particularité d'avoir la gare de l'extrême train. Mais le problème, c'est que c'est bien, c'est qu'on a un train, mais quand on arrive en gare de Mende, il n'y a plus rien. Donc il faut créer cette continuité-là qui n'existe pas aujourd'hui. Alors bon, nous on l'a porté déjà, et plusieurs fois, on a montré un maillot. Voilà, donc aujourd'hui, c'est avoir cette vision-là de la multimodalité. Alors moi, je propose déjà les scolaires, mettons-les dans le train, organisons le transport de façon à ce qu'ils soient, ils seront obligés de le prendre, de toute façon. Donc déjà, c'est des trains pleins, parce que s'ils n'ont pas d'autre solution, ils seront obligés de prendre le train et on remplit les trains. Et les scolaires, ça correspond aussi aux horaires domicile-travail. Donc c'est-à-dire commencer à mettre les scolaires, une fois que le train est là, avec les scolaires à l'intérieur déjà un peu remplis, et bien on travaille sur le domicile-travail, on communique, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Je veux dire, la communication sur les choses qui sont faites sur le train, c'est quasi inexistant. Il y a deux, trois panneaux, c'est sûr, d'un billet pour dire qu'il y a le TER à 1 euro, mais... voilà, les gens, ils ne savent pas le nombre de trains qu'il y a, ils ne savent pas. Voilà. Donc, voilà, je réinterviendrai plus tard sur cette question.
Alors, il y a une dame là, présente. Ensuite, il y a quatre interventions de ce côté. Et puis, je propose après qu'on s'arrête sur cette partie du TER et je donnerai quelques informations. Allez, madame.
Oui, bonjour, moi, je suis une utilisatrice du TER en Marmejol-Mende. Donc je rentre tout à fait dans l'optique de ce que vient de dire monsieur. Et d'autant plus, je pense que sur cette ligne-là, s'il y avait des... Surtout en arrivant à Mende, s'il y avait des bus qui attendaient, qui pouvaient monter les élèves sur Pétavin ou même en centre-ville, pour ceux qui sont en centre-ville, je pense qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui prendraient. Et puis je voulais aussi préciser que, bon, on voit souvent M. Leroy sur la ligne, là, sur la Marmejol-Mende, et que, bon, il est toujours à notre écoute, et qu'il y a eu quand même des choses de faites sur la gare. Moi, je suis une toute petite gare des Salais, là, donc je ne suis pas la seule, on est pas un ou deux, quoi. j'en ai pas plus, mais je pense que pour motiver les gens, il faudrait surtout qu'ils aient effectivement arrivé en gare, qu'ils puissent se rendre sur le lieu de travail ou dans leurs établissements, qu'il y ait un système de bus qui soit là pour les attendre.
Oui, juste pour répondre aux deux dernières interventions. Oui, juste pour répondre aux deux dernières interventions qui ont été faites sur Man. Et j'ai oublié tout à l'heure dans mon introduction de saluer quelqu'un qui est très important dans cette salle, qui est Guy Malaval, qui est le maire de Langueil, qui est le président de l'association de défense du Cévenol. Excusez-moi, Guy. Si, si, c'est pour moi aussi. Sûrement, effectivement, donc la gare, comme vous l'avez dit, elle est un peu excentrée, mais justement, on travaille la ville à un pôle multimodal qui sera situé à proximité de la gare immédiate, mais à quelques centaines de mètres de l'autre côté du Lot. Donc aller à pied à 300 mètres, 400 mètres. Et donc là, on va y faire la gare routière, on va y faire passer tout notre bus mandois, notre tube, notre transport urbain mandois, qui partira de là et qui effectivement qui pourrait aller dans le sens de ce que vous dites, à la continuité, si on amène les gamins par train à Mende, on pourrait après effectivement desservir toutes les écoles, puisqu'on les dessert déjà avec le transport urbain mandois et le transport scolaire.
Alors, monsieur Lassou, voilà.
Oui, moi je suis aussi du collectif de l'Unifor, et en fait, il y a trois petits points que j'avais rajouter. En fait, c'est qu'en Lozère, l'intermodalité, justement, c'est de ne pas mettre en concurrence le bus et le train, et que c'est dommage si une ligne comme la base qui demande, il y a eu énormément de travaux de fait au niveau de l'infrastructure, de faire circuler plus de bus aujourd'hui que de train. Et le dernier point que j'aimerais aborder aussi, c'est par rapport justement au trajet de domicile de travail, c'est que quand on habite à Langogne ou à Villefort du côté est de la Lozère, en fait on n'est pas arrivé à Mende qu'à partir de 11h15. Et ça c'est quelque chose qui est pas possible. Et une ville comme Langogne, qui partait à 6h du matin, aujourd'hui a été supprimée, donc il faut partir de Langogne qu'à 10h du matin pour descendre sur Mende par exemple. Et ça, c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment un effort à faire pour qu'on puisse venir à Mende. Pour travailler, pour les démarches administratives, pour le pouvoir à coup, tout. Voilà pour tout ce qui est important.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, monsieur Pilar, voilà. Et qu'après.
Bonjour, Gonzalez Benjamin, agent de circulation allemande. Donc, je voulais prendre la parole juste par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que c'est. On voit en fait qu'il y a un gros problème au niveau de l'offre. Je pense qu'il y a une grande taxe, c'est l'offre au niveau du domicile de travail. Et qu'on pourrait même aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a un petit domicile de travail qui est fait entre Marbejol et Mende et qui est servi à un siège Salem, avec une arrivée à 7h47, un départ de Mende à 17h30 ou 18h30 en bus. Cependant, on n'a pas l'équivalent de l'autre côté. On a même des villes comme Badaroum, le maire du Palan, qui ne sont pas desservies. Alors qu'on a qui représente une population qui dort sur Badaroui et qui travaille principalement à Mende. Et nous avons beaucoup, on est à Mende et même un rôle de travail. Après, en termes de technique, c'est vrai qu'on est sur une voie unique et que malheureusement, on a besoin des autocars pour pouvoir faire le domicile de travail dans notre ville. Autre chose, c'est vrai que les autocars sont principalement sur la ligne. Pour être honnête, on ne dessert pas Saint-Édimour. Florac est desservi, mais par le département pour un ou deux trajets à la journée. Donc en fait, le seul axe qui est desservi en Lozère est l'axe horizontal. Et on n'a rien qui dessert, que ce soit pour le tourisme ou autre chose. On n'a vraiment aucune proposition hors du rail. Et on y met malheureusement le bus dessus. Voilà, c'est tout.
Alors, les deux personnes derrière, si vous pouvez prendre le micro. Devant. Allez-y au fond, oui.
Excusez-moi. Alors, on est deux élus de
Ça marche au contact quand même. On va vous donner notre micro.
Oui, il a fallu en marche.
Merci.
Bonjour. On est deux élus de la municipalité de Marjol, on est venus exprès pour cette réunion, juste pour dire deux, trois choses. Je suis non-voyant et ma compagne est malvoyante. Donc on voudrait d'abord mettre en avant le groupe des non-conduisants. Hein, bien que tout le monde pense à ce groupe, qui est finalement plus important qu'on imagine. Il y a la cécité, bien sûr, mais il y a l'âge, il y a plein de types de handicaps, etc. Et donc, la mobilité de ces personnes, comme nous, on fait Paris d'habiter en Lozère, puisque je suis originaire de Lozère, et c'est possible, mais c'est difficile, et justement, on a besoin du rail, etc. Donc ça, c'était un point. Deuxième point, quand on habite Marvejol, en fait, c'est facile d'aller à Clermont, puis Paris, alors que c'est pas notre région, mais c'est le point le plus facile. Quand on va aller vers Montpellier, ça commence à être plus long et compliqué. Il y a la possibilité d'aller au puits qui existe en bus, puis après on rejoint le train, on peut s'en sortir. Et finalement, le point le plus difficile, c'est d'aller à Toulouse, qui devient pourtant notre région, notre capitale de région. Donc en fait, on dirait que c'est à l'envers de notre inclusion dans le territoire. Plus c'est un territoire qui n'est pas directement le nôtre, plus on peut y aller facilement et inversement. Et puis pour répondre à une remarque tout à l'heure, pour savoir les trains ou les bus de Marvejol, j'utilise sur mon mobile DB Navigator, qui est le système de renseignement de la SNCF allemande. Et là, je trouve tout. Et la SNCF française, je trouve jamais. Voilà. Juste pour le dire gentiment. Voilà.
Merci. Allez-y.
François Sepas, je ne sais pas si ça marche, membre de l'USR-CGT et de la Ligue des droits de l'homme. Alors, tout d'abord, concernant les réductions. Une réduction de tarifs qui demande l'utilisation d'Internet ne bénéficie pas aux gens qui en ont le plus besoin. Parce qu'Internet, ça n'est pas gratuit. Les gens les plus pauvres n'ont pas Internet. C'est une première chose. Je voulais parler ensuite des dessertes par autocar. Bon, un autocar, c'est beaucoup mieux que rien. Mais j'aimerais que l'on pense au sort malheureux des conducteurs d'autocar. C'est très difficile pour eux. Je ne suis pas conductrice d'autocar. Mais ce sont souvent des retraités, pas des gens à cheveux au moins pauvres et 16, qui seraient probablement trop vieux pour conduire un train. Ces gens, à la fois, ils conduisent bien sûr, mais aussi ils vendent des billets, mais aussi ils s'occupent de la disposition des bagages dans la soute, bien ça marche maintenant. Et il y a une chose qu'on pourrait trouver amusante, mais il y a la quadrature du cercle. Je pense à l'exemple précis du car Clermont-Mende. C'est un grand car, compagnie toute seule généralement. Donc, soit le car est sous-peuplé, il y a 3 ou 4 passagers, on se dit qu'il y a du gaspillage, c'est dommage, mais alors il a des chances d'être à l'heure. Soit le car est bien rempli, mais alors, en gare par exemple de Saint-Gély-d'Apcher, qui est alors la ville que j'habite, donc je connais bien, ce car passe souvent à des heures où la gare est fermée. Quand la gare est fermée, les gens qui veulent monter dans le car, ils achètent leur billet au conducteur. Eh bien, le conducteur, il est tout à fait impossible qu'il respecte son horaire. Alors, en plus, il y a du verre de la hiver. Hein.
Vous le savez.
Voilà.
Ici, les derniers. Voilà. Et ensuite, là, devant le départemental, et après,
je... Merci. André de Chazal, conseiller municipal de Langogne et membre du cabinet de la présidente du conseil départemental. Tout d'abord sur le H lozérien. Madame, je connais mal votre secteur. Le monastier Mende, combien de circulations ferroviaires par jour aujourd'hui?
Une
seule. Allez, autre. Ensuite, je me tourne vers Francis Castan qui a parlé tout à l'heure de remplacement des traverses, mais il faut préciser que la première tranche a été réalisée en 2010. Après, il y a eu la mort de Georges Frêche et la deuxième tranche est passée aux oubliettes. Elle ne figure pas et c'est dommage au CPER. Moi, j'appelle ce train le Trans-Lozérien. Il me rappelle le train, vous savez, de l'époque de la conquête du Far West. aux États-Unis, 40 km à l'heure, c'est le maximum qu'ils puissent faire. Ensuite, une remarque générale. Il faut tordre le cou à cette idée que le train, c'est ringard, c'est pas moderne, c'est ceci, c'est cela, c'est le reste. Opposez un contre-exemple, la Suisse. Le train ne marche pas parce que la SNCF pratique systématiquement la désorganisation. Elle organise méthodiquement la désorganisation. Ensuite, deux remarques sur la concurrence des autocars par rapport au TER. Je ne pensais pas qu'on aurait un autocar Clermont-Ferrand-Nîmes. Eh bien, Easy Lines vient de le créer. Oui, mais par la 75 et par Montpellier, autrement dit, aucune desserte de notre territoire. Dernier exemple, un projet avait été annoncé ici à Mam en 2012 que j'ai combattu de toutes mes forces. C'était de rejoindre Mam à Montpellier par autocar porte fermée par la 75. Le type même de la fausse bonne idée. Le train arrive au centre des agglomérations. Sur des voies dédiées, il peut donc arriver à l'heure. Il ne craint pas le mauvais temps. Tout pour lui. Et enfin, le relief. Le relief. Car chez nous, avec les vallées que nous avons, la route est beaucoup plus longue, plus sinueuse et moins confortable que le train. Et moins sûr.
Alors, donc, devant les deux, plus que deux personnes, et puis après, je vais.
Bonjour, Sarah Puyé, directrice de l'Agence Lausérienne de la Mobilité, la première agence de la Mobilité des Pyrénées. Excusez-moi, on n'a pas encore changé de nom. Les consultations sont en cours. Donc, oui, par rapport à tout ce qu'on a entendu, même si on n'est pas spécialisé, mais on a un contact avec. Ce qui a à voir avec le déplacement sur le rail, mais on est plus sur l'intermodalité. Et comme il a été dit tout à l'heure, le rabattement et l'accès pour arriver aux lignes, et qu'il y ait du monde qui arrive aux lignes et qui puisse prendre les billets, si aujourd'hui n'est pas le cas en Lozère, je ne vais pas revenir dessus, mais en effet, c'est la grande difficulté aujourd'hui. Je connais peu de Lozériens qui vont prendre le train pour aller à Montpellier, mais qui vont partir essentiellement en voiture, voire un bus, s'il y avait un bus, c'est quand même une réalité, on a des chiffres aujourd'hui, hein, nous à l'agence. De gros problèmes de desserte. Donc, le but de l'agence, c'est de manier le territoire, d'apporter des solutions de proximité avec des solutions justement d'intermodalité. Et il me semble que le rôle de chacun d'entre nous, c'est y compris dans les milieux hyper ruraux, comme il peut être le nôtre, mais à d'autres, dans l'Arles, dans l'Aveyron, dans l'Ariège, on est aussi des Pyrénées, dont je suis originaire. Il me semble que cette solution pourrait permettre un maillage cohérent du territoire, d'apporter de l'information, de la communication, ce que vous disiez tout à l'heure. Et comme le parking multimodal est en train de se faire, de prévoir un réel espace d'accueil et d'information et de rabattement et de solutions de multimodalité au sein des gares, comme ça peut se faire ailleurs, dans d'autres départements, dans d'autres régions, parce que l'agence écomobilité à Chambéry, où on sort directement de la gare de train et on peut louer des vélos électriques. On a accès à toutes les lignes de bus et on peut se déplacer autrement sur le département, que ce soit pour les locaux ou que ce soit pour les nouveaux arrivants. Voilà.
Merci. Alors, moi, je voulais réagir sur les transports scolaires et du coup, ce qui a été dit sur la desserte, on va dire, plus au sud du département, donc, alors, sur les transports scolaires, rappelez quand même, moi je suis favorable là où c'est possible, hein, que les enfants prennent le train. Mais ça veut quand même dire deux choses. D'abord, il va falloir travailler l'intermodalité, parce que je ne crois pas que les parents lausériens acceptent d'avoir un service de moindre qualité. Je vais m'expliquer en disant ça, hein, c'est pas par rapport au rail. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même un transport scolaire qui est très favorable, puisqu'il suffit qu'il y ait trois enfants de plus de 3 ans à plus de 3 km de l'école pour qu'il y ait un ramassage. Donc, quand vous regardez la carte de la Lozère, on a plus de 2000 hameaux à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les enfants dans le moindre hameau de ce département. Donc, si demain, on dit, vous partirez de la gare et sans réfléchir à comment on amène les enfants du hameau à la gare, des réactions. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le voir dans le cadre de l'intermodalité. Et puis, se pose aussi la question de la responsabilité sur les enfants mineurs.
C'est vrai que ça fait un moment qu'on y travaille au département. On se posait la question d'ouvrir, là où c'était possible, les transports scolaires à d'autres usagers, hein, et en particulier, on pensait aux personnes âgées, en tout cas ceux qui n'avaient pas d'autres moyens de mobilité, mais on se heurte quand même à cette question de responsabilité avec les mineurs. Ouais, ça se lève, ça, on peut le travailler et on peut y répondre. Voilà ce que je voulais vous dire sur les transports scolaires. C'est quand même plus de 6,5 millions d'euros pour les entreprises de transport sur le département aussi. Voilà. Dire aussi que l'impact économique est en neutre pour ces entreprises-là. Tout à l'heure, il a été dit que du coup, il n'y avait pas d'autres services. C'est vrai que quand on est arrivé l'année dernière au département, on a trouvé quand même un grand vide sidéral sur les lignes directes, enfin, quelques-unes hein, qui étaient mises en place, mais très peu. Pas de ligne touristique, pas de schéma d'air de covoiturage, enfin, pas d'air de covoiturage. Donc, le département a été retenu dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Environnement, territoire à l'énergie positive. Donc, on s'est lancé dans la mise en place d'un certain nombre d'aires de covoiturage. On est en train d'écrire un schéma de mobilité, donc on en a parlé quand on vous a rencontré, avec des lignes directes à partir de Mende pour desservir les plus grosses villes du département, avec surtout la généralisation du transport à la demande pour permettre de rabattre justement sur les lignes ou sur les trains. Je veux dire, il faut qu'on le regarde de manière globale. Et puis la réflexion sur les lignes touristiques, parce qu'on a des territoires qui sont en train de s'organiser, notamment autour de pôles de pleine nature, avec le choix d'aller vers un tourisme plus vert, enfin sur l'écotourisme. Donc ça veut dire que ces touristes-là, ils ont aussi besoin d'avoir des réponses pour pouvoir accéder au territoire. Donc cet été, on va mener une expérimentation. Donc on avait un aller-retour, deux allers-retours, Mende de Florac jusqu'à présent. On en rajoute un troisième, de manière à permettre aussi au bassin d'endroit d'aller pendant l'été sur le sud du département. Et on met en place une expérimentation d'une navette estivale tout le long des gorges du Tarn, toute la vallée du Tarn, jusqu'au sud du Tarn et jusqu'à la station du Mont-Lozère. Ces gorges du Tarn, cette partie-là, c'est une partie où il y a des problèmes de stationnement. Et ce sont deux territoires, les gorges du Tarn et le Mont-Lozère, qui candidatent pour devenir pôle de pleine nature. Donc c'est aussi un moyen de soutenir leur candidature, mais on voulait aussi prouver à la région que ces lignes avaient leur intérêt, que ça pouvait fonctionner et que ça correspondait à un besoin. Voilà.
Merci. Alors peut-être, si vous êtes d'accord, je propose qu'on clôture sur cette première partie sévère et bus. Quelques mots peut-être en complément de ce que le conseil départemental vient de nous dire, mais d'abord pour vous confirmer que bien évidemment les éléments qui ont été évoqués et les contributions qui sont données vont nous être très utiles dans le cadre à la fois de la négociation de la convention TER, qui a été fait allusion à plusieurs reprises, et cette négociation s'entame la semaine prochaine. Mais aussi ça va nous servir dans le cadre de la réalisation de notre proposition de politique de transport pour les 15 à 20 ans qui viennent. Bien évidemment, l'idée, on a le travail dans l'état d'esprit qui vient d'être évoqué par plusieurs d'entre vous, de surtout pas opposer, Stéphane l'a dit dans l'intervention lunaire, de ne surtout pas opposer le bus et le train, de travailler des solutions de rabattement, comme ça a été indiqué tout à l'heure, de travailler des solutions de complémentarité, de façon à ce que on ait, et bien évidemment, qu'un territoire comme le vôtre, on y reviendra, et je pense qu'on va dire un mot, mais ce qui est évoqué correspond à la réalité vécue, le sentiment d'abandon qu'évoquait la présidente du conseil départemental. Est un message à la fois lourd, mais c'est la réalité. Et c'est le nom que je suis, je peux que le comprendre, et je pense qu'il y a vraiment besoin d'entendre cette dimension-là et de trouver donc des propositions en termes de propositions de transport qui permettent de solutionner, en tout cas de travailler à la solution de ce sentiment. je voulais, mais ça a été évoqué par M. le maire, donc je ne reviens pas. Il y a le projet sur Mende, donc nous sommes, c'est un projet qui est déjà en cours, donc lui, se met en œuvre, en tout cas pour ce qui concerne l'engagement de la région. Après, je crois que ce que vous avez évoqué sur la question de la présence humaine, à la fois dans les gares, on y reviendra dans la troisième partie, mais aussi dans les trains, dans les bus, c'est un élément important, et c'est évident que notre conception du service public, notre conception de travailler à l'égalité des territoires, ça passe par cette question aussi de la présence humaine, et c'est important de pouvoir y travailler. Peut-être juste un dernier mot avant de passer la parole à Aurélie, c'est vous dire que nous avons la volonté, en ce qui concerne la question d'avoir des correspondants et des interlocuteurs, bien évidemment, en tant que vice-président, je veille à être attentif à cette dimension. Nous travaillons à ce que le maillage des conseillers régionaux par département puisse fonctionner, hein, et permettre d'être ces interlocuteurs. En tout cas, moi, je le saurais sur toutes les questions d'infrastructure et d'intermodalité et sur l'ensemble des mobilités. Mais je veux vous évoquer un projet pour répondre à une question très claire qui a été posée sur le comité de ligne. La dimension de la région aujourd'hui, avec 13 départements, nous impose de regarder les choses autrement que ce qui a été fait au Calabre. Nous ne sommes pas face à la gestion de 8 départements ou de 5 départements. Nous en avons 13. Et donc nous devons imaginer des solutions qui correspondent à cette dimension même assez importante, hein, de ces 13 départements. Vous savez, mais c'est important de se le rappeler, en Europe, il y a des pays qui ont notre superficie. Ils ont donc bien évidemment d'autres moyens d'action que ce que peut avoir le conseil régional. Donc nous allons réaffirmer, nous l'avons déjà fait, mais je crois que c'est à généraux pour le redire, nous allons redire à quel point à la SNCF, à quel point nous pensons qu'il est utile que les comités de ligne soient réactivés partout où c'est possible. C'est de la responsabilité de la SNCF et nous les redisons et nous les retirons à quel point nous soutenons toutes celles et tous ceux qui en demandent la mise en œuvre. Mais en même temps, nous prenons nos responsabilités. Et donc, nous allons travailler dans la suite des états généraux, donc, donnez-nous une petite année pour quand même le penser, mais j'ai la volonté de travailler en accord avec la présidente Delia à la mise en place de conseils départementaux des transports qui permettent de répondre à la question que vous évoquiez, c'est-à-dire celle de permettre de se parler entre celles et ceux qui ont un intérêt au transport, entre celles et ceux qui sont les actrices et les acteurs des transports, entre celles et ceux qui sont les ayants droit au transport, parce que nous tenons à ce que il y ait cette reconnaissance d'être ayant droit au transport. Donc, oui, nous avons cette volonté, cette ambition de mettre en place dans chaque département, à partir de la région, bien évidemment, là où c'est possible, en partenariat avec les conseils départementaux, bien évidemment, mais en tout cas, ça sera une décision que nous voulons travailler pour le conseil régional, d'avoir ces instances qui permettent de travailler à la fois l'expression des besoins, qui permettent d'être des lieux où on puisse présenter les réponses à cette expression des besoins, mais qui soient aussi des lieux de contrôle démocratique de comment on répond aux besoins. Parce que ce que vous avez dit dans cette première partie, c'est quand même beaucoup ce fait qu'il n'y a pas de lieu où il peut s'exercer ce contrôle démocratique, et que ce que moi j'entends, c'est que les uns et les autres disent « nous avons besoin d'avoir un lieu où nous puissions contrôler ce qui est réellement fait en termes de transport ». Peut-être Aurélie un mot avant de passer au TOT.
Non. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Je remercie particulièrement mes collègues Stéphane et Jean-Luc d'être venus ici. Nous sentons par la présence de nombreux élus dans la salle, d'agents de la SNCF,
d'usagers au quotidien de transport en Lozère, d'associations qui interviennent sur la multimodalité, que pour vous, c'est très important justement d'être entendu. Le sentiment d'abandon, on parlait tout à l'heure plusieurs personnes, dont Sophie Pantel, du conseil départemental, est quelque chose de très prégnant. Donc on vous remercie, j'associe toute la salle à mes remerciements d'être là pour nous écouter. Stéphane a présenté tout à l'heure la méthode et les enjeux, et les différentes interventions, on est longtemps, qui n'étaient pas forcément que sur le TER, qui étaient sur de multiples sujets, mais il y a, dans ces différentes interventions, il y a un point qui ressort, c'est que la Lozère est spécifique, et que les spécificités de ce territoire doivent être entendues dans nos réflexions à la région et par les politiques que nous mettrons en place par la suite. La région est le garant finalement des développements équilibrés entre les territoires ruraux que nous connaissons ici, les montagnes, et les territoires urbains. La crainte en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix qui soit fait de privilégier les transports urbains, donc évidemment, pour l'instant personne ne l'a évoqué, mais le TGV, et les transports ruraux, enfin les transports du quotidien pour nous. Aujourd'hui, ce que disent en fait les gens présents ici, c'est qu'en Lozère, on a besoin de solutions. Et nous, vous l'avez entendu dans les différentes interventions, personne ne propose de train au bus. Et même Sophie Pantel a évoqué la RN 88, la route de la 106, qui sont des axes essentiels pour le développement économique de notre département et que dans notre discussion sur les transports, il ne faut surtout pas oublier. Donc, tout ce qu'on demande, c'est des solutions, et les solutions, elles passent forcément par la complémentarité de ces trois moyens de transport, bus, train et route. Ce que veulent concrètement les Lozérains, ce qu'ils attendent de nous, pour être très clair, je crois, je m'en suis dans l'eau, avec Carole Delga, c'est des transports domicile-travail ou domicile-école, qui couvre l'ensemble du département, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, Sophie Pantel l'a très bien expliqué, et qui soit efficace. Donc, c'est-à-dire, ça c'est la question de ce que j'appelle la particularité, c'est-à-dire qu'il correspond à des horaires de travail ou de scolarité. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est une liaison quotidienne efficace avec les métropoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on avait regardé avec certains que je vois déroulés autour de la salle, salut. On a même regardé pour aller en police, il fallait 5h30, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. C'est un peu long. Disons. Et pour aller à Toulouse, je ne sais pas, mais ça doit être long. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une liaison en 4 heures pour Toulouse et une liaison en 3 heures, c'est pas acceptable, vers Montpellier. Et dernier point, et là je fais la transition avec le sujet suivant. On souhaite avoir une liaison, puisque comme l'a dit Sophie, on n'a pas de port, on n'a pas, pas d'aéroport, donc on veut une liaison quotidienne avec Paris et reconnue comme telle. Puisque la question des TET se pose, et là je remercie particulièrement Jean-Luc qui est très attentif à la question de l'Aubrac et du Cévenol. Il m'interpelle souvent en me disant, tu sais que sur le Cévenol, il faudrait qu'on prenne une motion, d'ailleurs c'est des premières actions qu'on a menées à la région, c'est une motion de défense des statuts des trains d'équilibre des territoires de l'Aubrac et du Cévenol. Il faudrait qu'on fasse un courrier, d'ailleurs qu'on le fasse. Et donc pour ça, je te remercie de ton attention sur ces deux lignes. Mais ça, c'est vraiment une question importante pour nous, c'est la liaison avec la capitale, parce que on est lozérien, on fait partie de la République française et on doit être relié à la capitale de la France, qui est Paris, comme on va être relié à Montpellier et à Toulouse, de façon efficace, parce que si le train ne nous permet pas d'aller demain dans les métropoles de façon efficace, les gens ne prendront pas le train. Parce que les citoyens lozériens, ce sont les mêmes que les citoyens montpelliérains, ils ont les mêmes exigences et les mêmes envies, et je trouve ça tout à fait, dans une république tout à fait normale comme revendication. Donc voilà, merci à vous deux, et le lien est tout à fait fait avec le thème suivant qui est le TET.
Évidemment. Oui, bien, bonjour, qui m'a l'aval, Bernard Langogne, président de l'association de la défense du Cévenol, des élus de la défense du Cévenol et de la ligne des Cévennes. Et je vous prie de m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir rester, c'est pour ça que j'interviens de suite. Je vais être très court en fait, parce que beaucoup de choses se sont dites. On n'a pas essentiellement parlé des TER, mais on a beaucoup débordé. Alors moi, ce que je voudrais dire, ok, motion, courrier, vous savez, depuis 2008, notre association, et je salue, il n'est pas là, mais enfin, je pense au président Fauché, qui était président jusqu'à ce que je prenne le relais, le trésorier Tessy qui est à côté de moi, le secrétaire de l'Escure qui est derrière moi, et tous les élus de ce territoire autour de cette ligne des Cévennes, mais aussi tous les grands élus, les députés, les sénateurs, président de conseil général, conseil maintenant départemental, etc. Tous les élus, effectivement, on en a fait des motions, on en a fait des courriers, on en a vu des préfets de région, au ministère, on est allé au ministère, on est allé à l'Élysée, on est allé partout pratiquement. Là aujourd'hui, la question essentielle pour nous, c'est que va devenir le Cévenol, que va devenir l'Aubrac. Je pense qu'il y a des gens de l'Aubrac ici qui parleront pour leur train. Moi, je vais juste parler pour le Cévenol. Que va devenir le Cévenol? Alors, notre crainte, c'est pas que le train disparaisse, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un train aux horaires du Cévenol, mais c'est qu'il soit fourgué aux régionaux. Vous le savez, on en a discuté avec Jean-Louis Gibelet. Ça, c'est notre crainte. Et j'alerte les usagers qui pourraient se faire piéger. Parce que si on peut leur dire, écoutez, vous n'aurez pas le Cévenol, mais vous aurez un TER ou un TER interrégional, confortable, on met nos horaires, qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que si l'État se désengage et que ce ne soit plus un train d'équilibre du territoire, si elle se désengage, elle va se désengager sur la ligne, la région n'aura pas les moyens de suivre. Et les infrastructures également, l'entretien des infrastructures, etc. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, même si vous avez dit, M. Béraud, que vous n'allez pas peut-être annoncer des positions fortes et définitives sur la région, je voudrais quand même dire, parce que j'aimerais partir au moins avec un espoir, que vous partagez cet avis de l'ensemble des élus, qu'il faut que le Cévenol reste un train d'équilibre du territoire. Et puis je voudrais dire aussi, alors, je ne vais pas défendre la SNCF, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup tiré sur la SNCF. Alors, je ne vais pas la défendre, parce que je mets à disposition, effectivement, notre association a un observateur qui note depuis pratiquement 5-6 ans tout ce qui se passe sur la ligne du Cévenol, tous les problèmes. Hein, et je peux vous dire qu'il y a des mois où on compte les jours où ça a circulé normalement. Donc, effectivement, on a des griefs contre la SNCF, mais pour rejoindre de l'Escure, je dis qu'il faut qu'on se parle, et qu'on se parle mieux. Et on peut se parler mieux. J'ai un exemple. Il y a 15 jours, on était à Clermont-Ferrand avec, alors je ne sais plus avec qui j'étais, enfin, avec des membres de l'association, et on a parlé avec un directeur d'Intercité et avec un directeur régional, Auvergne. Et on a parlé de, vous savez pas de quoi, de la promotion du Cévenol. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, ça arrive à la direction SNCF, enfin direction Intercité, ils nous proposent de promouvoir le Cévenol. Donc, on a de l'espoir. Est-ce que vous pouvez me répondre, Monsieur Gibelin?
Oui, alors, je ne veux pas faire de question-réponse, puisque vous avez annoncé que vous allez partir, je ne veux pas que vous partiez sans avoir donné la réponse. Alors, cet après-midi, Carole Delga est à Paris et elle rencontre le préfet Philizot sur la question des TEP. Je n'ai pas encore le retour, on l'aura tout à l'heure ou demain matin. Ce que je peux vous dire, c'est dans quel état d'esprit il est allé, puisqu'on a évidemment échangé avant et ça correspond au message que moi j'ai passé en son nom et au nom de la région qui est chargé de cette mission sur les TET. Ça a été de redire avec beaucoup de force ce qu'Aurélie a redit tout à l'heure, nous voulons une liaison avec Paris. Et nous contestons complètement l'idée que, qui nous est aujourd'hui proposée, parce qu'il y a les deux aspects. Est-ce que vous voulez dire, M. le maire, c'est-à-dire qu'il y a bien une annonce d'une campagne de promotion du Cévenol, et dans le même temps, la proposition que m'a faite la semaine dernière le préfet Philizot, c'est de dire le Cévenol, c'est un hymne Clermont. Voilà. Attendez, il faut ne pas terminer. Non. L'actualité, c'est Nîmes Clermont. Voilà. Donc, et pour le MRAC, on est sur la même situation, on s'arrête à Clermont. Donc, cet après-midi, Carole Delcal est allée redire avec beaucoup de force que nous étions pour que ce soit des trains guides du territoire et que cette équipe du territoire, ça amène sur des liaisons verticales à aller à Paris. Et ce n'est pas du tout péjoratif pour l'Auvergne ni pour Clermont-Ferrand, mais c'est parce que la liaison, elle est sur Paris. Et dans les liaisons transversales, nous sommes pour des liaisons qui passent au minimum Bordeaux-Marseille et Bordeaux-Lyon, et qu'on ne dise pas demain que c'est du tout compliqué. Parce qu'on est quand même sur une démarche qui vise à poser au niveau de la région, voire à un pseudo-interrégion, tel que vous l'avez évoqué, et qui a là besoin de ça. Donc, vous allez à juste titre évoquer le fait qu'il y avait besoin de mobilisation. Pour ma part, je serai à nos côtés le 21 le matin, je serai à Agifort, parce que c'est un jour où il y aura son initiative. Je pense que c'est important que les élus et la population y soient. En tout cas, moi, j'y serai pour présenter la région à Agifort, à Moulin.
Je vous remercie. Alors, le 21, c'est à Villefort, c'est à Jean-Jacques et à
Julien. C'est à Chachéry, tout à fait.
Merci.
Au revoir.
Allez, on continue alors. Et à Moulin, dernière, et puis Sophie.
Donc, bonsoir, Frédéric Long, toujours chez nous. Moi, je voulais parler sur le MRAC. Donc, il est évident que l'État, il ne faut pas qu'il se détache. Mais je pense qu'il faut raisonner aujourd'hui autrement qu'au MRAC, c'est Venol. Et c'est le comité pluraliste des Français de la ligne voisine de la Frédéric. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons raisonner en transmassif central et que. Il faut un train qui soit commun au départ de Paris et qui a la possibilité qu'il se sépare avant une partie qui va vers, non pas Nîmes, mais Marseille, comme c'était auparavant, et une autre partie qui va vers Béziers, mais Perpignan. Puisque, voilà, si on prend les lignes telles qu'elles sont, Béziers de Sarre, voilà, je dis, de Sarre, c'est quoi la pertinence? Ben, de Garatry à Le Lyon, hein, par exemple, je dis ça comme ça. Béziers, c'est quoi la pertinence? On va parler du TGV. Ah, ben il y a des TGV qui vont en Espagne, qui vont à Barcelone et qui vont à Madrid. Voilà. Il faut raisonner. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu de la SNCF, et voire même de l'État, c'est de mettre en concurrence l'Aubrac, le Cévenol, et dire, voilà, en gros, il y en a un, il y a l'autoroute à côté, ça serait bien que ça soit un bus. L'autre, le canton à Clermont-Nîmes, comme ça, c'est plus du régional que du national. Mais voilà, aujourd'hui, il faut raisonner en transmassif central. Il faut un train qui parte de Paris, puisqu'on nous parle aujourd'hui que la gare Paris-Bercy va s'appeler Paris-Auvergne. Eh bien, ça serait peut-être pas mal que le transmassif central il parte de la gare Paris-Auvergne, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, à Mende, il n'y a pas d'aéroport. La nationale 88, je suis désolé, mais elle n'est pas finie. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de port. Donc voilà, aujourd'hui, le train a toute sa place dans le massif central. Et avec ça, c'est deux trains qui pourraient relier Mende à Paris. Après, on a parlé tout à l'heure aussi, il y a d'autres TET à proximité. Il y a les Paris-Clermont, bien sûr, il y a un train de nuit, pourquoi pas. Bon, les parcours sont longs, mais bon, en le faisant la nuit, on peut dormir. Ça peut être sympa, un Mende de Rodez pour aller rejoindre le train de nuit, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors après, bon, moi là-dessus, on va reparler du réseau, parce que le réseau, ça s'est jamais trop défini dans des thèmes qui sont abordés ce soir. Voilà, c'est catastrophique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'État qui se désengage, SNCF Réseau. Alors, je sais pas s'il y a des représentants de SNCF Réseau aujourd'hui, mais SNCF Réseau, la politique, c'est nous, on s'occupe des grandes lignes, les petites lignes, ben, les régions débrouillées. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est faites des CPER, ou alors faites comme la région Midi-Pyrénées, financez tout. Voilà. Voilà aujourd'hui dans quelle situation on est. Alors moi, ce qu'on constate, si on prend une carte de France ferroviaire, c'est que les lignes les plus sinistrées, elles se trouvent dans le massif central. Et donc, j'ai été heureux d'avoir la
presse que Mme Delga avait été élue présidente du GIP du Massif Central et que Mme Aurélie Magnol, ici présente, est élue vice-présidente du GIP du Massif Central. Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse une spécificité du rail dans le Massif Central. C'est reconnaître le ferroviaire dans le Massif Central, une spécificité, pouvoir avoir des fonds, avoir quelque chose, que ça soit reconnu au niveau du Massif Central, que le... Parce que c'est là où aujourd'hui, quand on prend une carte de France, c'est là où les ralentissements se trouvent, c'est là où l'État se désengage, hein, les TET qui sont... On parle de l'Aubrac, on parle du Cévenol, mais il y a le Bordeaux-Lyon qui n'existe plus, que la ligne est fermée à des endroits. On parle du Paris-Montluçon. Et tout ça, c'est le Massif Central. Donc moi, je vous propose, Madame Aurélie Magnol, voilà, je suis délégué CGT, de travailler avec vous pour pouvoir monter un dossier, puisqu'on sait que le réseau ne se fera pas tout seul, qu'SNCF Réseau ne voudra pas financer, que l'État, on voit bien qu'ici, il se désengage sur l'Aubrac, il se désengage du réseau ferroviaire, et la région n'aura pas les moyens de refaire le réseau régional. Donc aujourd'hui, il faut trouver des ressources nouvelles. Et avec le Massif Central, avec une région, avec l'État, on forcera la main à SNCF Réseau, on vous y aidera, et on arrivera à faire reconnaître que le rail dans le Massif Central, c'est vital. Voilà, donc je compte sur vous, je suis disponible et je serai ravi de travailler avec vous.
Oui, rapidement. Alors moi je partage totalement ce que vient de dire l'auditeur précédent sur la vision Paris, Massif Central, et après évidemment avec les desserts vers les différents départements. Et c'est quelque chose, il y avait eu une délibération du comité de Massif, donc c'était fin 2014, début 2015, qui allait dans ce sens. Parce qu'il y a aussi le TET en Corrèze, enfin celui qui faisait Corrèze Clermont qui était aussi menacé. Donc on avait délibéré dans ce sens. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une volonté au niveau des élus, après qu'il soit mis en œuvre et que ce soit porté. Sur les TET, c'est vraiment l'outil d'aménagement du territoire. Et moi, je veux insister sur le maintien du statut national. On n'a pas prononcé les mots, et derrière, c'est pas neutre. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit sur après les conséquences, si c'était transféré aux régions, notamment sur l'entretien des voies, enfin, des ouvrages d'art, en particulier sur le Cévenol, qui sont très nombreux, mais sur le Brac, on a aussi la même situation. Et je voulais vous alerter sur deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce que la SNCF ne dise pas ces gentils petits TET dans ces endroits c'est perdu dans les transports dans le train touristique, parce que c'est quand même ça aussi qu'ils ont derrière la tête. Et puis ensuite, c'est le fait qu'on ait perdu le coût de liaison entre Nîmes et Marseille. Dans la convention TET, il était dit que pour être classé TET, il fallait traverser trois régions. Et à partir du moment où on a perdu ce bout, on a fragilisé la possibilité de pouvoir rester classé TET. Donc il faut être très vigilant sur ce Nîmes-Marseille.
Pierre, tu as pas sur le côté.
Une remarque transversale, il s'est passé quelque chose le mois dernier à Bruxelles qui me semble-t-il va peser lourd dans tout ce que vous êtes en train de préparer, c'est qu'après 4 ans et demi d'âpres négociations, le 4e paquet ferroviaire ne s'est pas terminé comme le souhaitait le tenant de la libéralisation totale, puisque la France et l'Allemagne, la SNCF et la Deutsche Bahn ont gagné la partie. Elles ont gagné la partie puisque, en effet, on repousse à 2023 l'ouverture totale théorique de la libéralisation du trafic de voyageurs. Et comme des DSP pourront être passés à la veille de la fin de cette période, ça repousse, elles ont une durée de 10 ans, ça repousse en fait à 2033. Donc ça veut dire qu'on va avoir affaire à la SNCF tout au long de ces dernières années avec les moyens de l'État qui a filé aux régions les transports. C'est quand même payer le luxe de demander, et il l'a obtenu, qu'en cas d'ouverture à la concurrence, il soit co-décisionnaire avec les régions. Voilà le cadre dans lequel on va évoluer. C'est important, c'est lourd de conséquences.
Merci.
Pierre-Yvan, l'heure de Hélas, mais aussi Nathieu Cheminot. Je pense qu'il faut être prudent avec ce qui est annoncé, ce qui est annoncé par les SNCF. Effectivement, il peut y avoir un discours unifiant qui explique aux élus qu'ils vont faire de la pub pour les CNOL. Mais dans quel cadre? Est-ce qu'on reste dans le cadre du TET, la présidente du département de la vie, ou est-ce que nous rentrons dans le cadre d'un train touristique? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il est évident que la stratégie de l'entreprise SNCF, jusqu'à aujourd'hui, était de pouvoir faire un chiffre et de pouvoir se consacrer à des investissements sur d'autres réseaux. Je pense que ce qui est dit aujourd'hui, tout ce qui a été marqué aujourd'hui va arriver très certainement aux directions de l'entreprise. Je pense qu'il y a des oreilles attentives aujourd'hui dans la salle qui entendent ce que nous disons. Ce qui serait intéressant, c'est que ce qui est dit permette de construire une stratégie de progrès et qui permette à notre territoire de se développer plutôt que de récession et de fermeture de nos lignes. Je pense qu'il est important que tous les élus que nous sommes et tous les usagers que nous sommes ici aujourd'hui mettent la pression sur les SNCF, mais aussi aident nos camarades élus à la région pour que cette pression elle soit appliquée de toutes parts. Au-delà de ça, le désengagement de l'État doit être stoppé. Il y a des annonces qui avaient été faites et des annonces qui sont très claires pour que l'ensemble des citoyens sur ce territoire, sur notre territoire, aient les mêmes chances et soient gérés avec égalité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si on continue à avancer de la manière dont on avance sur le transport ferroviaire, mais sur d'autres sujets aussi, on sera encore plus en difficulté pour pouvoir vivre d'une manière égalitaire avec les autres citoyens de notre territoire. Donc c'est un point important aussi à mettre en œuvre.
Derrière.
Simplement, on verra le comité pluraliste de défense de la ligne Béziers Sarre, clairement. Tout a été dit à peu près sur les TET. Simplement l'idée du Transmassif central, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque ça a déjà existé. Hein, le Cévenol-Lévaux-Brac, il y a quelques années, on va dire une vingtaine d'années, partait ensemble de Paris, et c'était très bien ainsi. La SNCF en a décidé autrement. Petit à petit, elle s'est attachée, avec différentes façons, travaux l'été, suppression de correspondance, tout ça, a vidé de son contenu tout le monde, tous ces trains sont vidés de leur contenu chaque été, quand c'est la bonne période où c'est qu'il y a du monde, on se débrouille pour transférer les gens dans des cars parce qu'il y a des travaux. Voilà, on privilégie le transport des scolaires pour ceux qui c'est un chili. En période, donc, l'été, on transfère, donc, les gens sur dans des bus. Ensuite, la vente, c'est quelque chose qui est important. Ces trains ne sont pas vendus au départ des gares de France et de Navarre, systématiquement. Il faut que les gens qui sont au guichet soient capables et disent, mais vous avez quelque chose. Je veux dire, on a vidé ces trains sciemment. Par volonté politique de la SNCF. L'histoire du Transmassif central, c'est une très bonne chose puisque on arrivera peut-être à relancer l'intérêt de ces trains qui sont vitaux pour nos lignes, que ce soit Béziers-Sarre ou que ce soit Clermont-Marseille. C'est quelque chose qui est très important et il faut leur redonner l'attrait qu'ils avaient avant, à savoir leur redonner un temps de parcours acceptable, puisque en 15 ans, on a perdu plus d'une heure entre Béziers et Clermont-Ferrand. Entre Nîmes et Marseille, entre Clermont et Marseille, c'est pire. Donc il faut redonner de l'attrait à ces trains. Il y a des endroits, par exemple, sur la ligne Béziers-Sarre, où il reste une cinquantaine de kilomètres à moderniser. Il faut trouver des moyens de les moderniser, de faire sauter ces ralentissements pour qu'on rende de l'attrait à ces trains. Il est anormal qu'on a le le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, au Mont-Aubrac, il n'y a plus de gare ouverte, ne serait-ce que l'été, il n'y a personne. Alors, je veux dire, après on dit qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas de... On a tout fait pour vider les gares, on a tout fait pour vider les trains, et on ferme. Petit à petit, on ferme, malheureusement. Voilà.
Merci. Et je vous propose après, pour les 10 minutes qui restent, de compléter sur ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois sur la question des gares, mais plusieurs des choses ont été évoquées. Et même s'il n'y a pas de ligne à grande vitesse, certains veulent donner leur point de vue sur cette question, il est bien entendu pas interdit de le faire. Et je propose qu'on termine quand même ensemble à l'intérieur. Allez-y.
Voilà, pour parler d'une certaine urgence, on est à la veille de la saison touristique. Sur le Sémenol, ce ne sont plus des corails qui circulent. Ce ne sont plus des trains corails, ce sont des autorails. Qu'est-ce qui va se passer cet été quand il va y avoir un afflux de monde sur cette ligne? Si rien ne change, le matériel qui circule aujourd'hui ne suffira pas. Donc là, il y a vraiment un point d'urgence peut-être à régler. Alors après, il y a également deux dimensions qui peut-être dépassent un peu les TET, mais je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais quelques mots. Pour dire qu'on est, je parle de la ligne des Cévennes, celle que je connais le mieux, on est devant une vraie merveille, un héritage patrimonial. Ça mérite respect, et ça serait une folie, je pèse bien mes mots, de mettre cela en péril demain. C'est fabuleux, c'est un potentiel fabuleux. Alors, et toutes nos lignes, d'une façon générale, en Lozère, sont des lignes exceptionnelles et où on découvre des paysages exceptionnels. Et donc, il y a un véritable potentiel pour faire circuler des trains touristiques sur ces lignes-là. Et aujourd'hui, les quelques-uns qui circulaient semblent être remis en question. Je pense au train des Gorges de l'Allier, si mes renseignements sont bons, il y a seules 4 dates qui sont retenues de circulation pour cet été. Si mon collègue Yvan Laval était là, il nous aurait rappelé combien c'était important pour sa ville de Lombogne, la circulation de ce train. Et puis il y a le fret aussi, on n'en parle pas du fret. La SNCF nous a expliqué pendant des années qu'on ne pouvait pas faire circuler des trains de fret sur notre ligne. Aujourd'hui, c'est ECR, Eurocargo Rail qui s'en charge. C'est pas un scandale, ça aussi? Voilà, et je pense que si demain, il y avait des trains de fret qui circulaient sur cette ligne, ça aiderait quand même à l'amortissement de l'infrastructure. Ça paraît évident. Voilà, mais c'est des évidences, tout ça, c'est des évidences qu'on répète depuis des années et des années, et on a l'impression, ça tombe toujours d'être morte. C'est, je m'excuse, je vais être dur, mais nous ne rencontrons que de la mauvaise foi depuis 10 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aspire vraiment à ce qu'on puisse mettre en place un dialogue de confiance où l'on puisse vraiment échanger et essayer de trouver des solutions.
Nous avons toujours collectif des usagers de transport montagnier. Pendant que nous discutons, pendant les 36 réunions, je crois que c'est 36, la SNCF continue sa politique de démantèlement et puis sa politique, au contraire, de développement du TGV. J'étais à Nîmes l'autre jour, pratiquement tout le monde était contre la gare de Manuel. Qu'a fait la région depuis l'autre jour, ça a été demandé, concrètement, pour bloquer les travaux de la SNCF et pour que la SNCF ne mette pas devant tout le monde devant le fait accompli, en disant, voilà, on ne peut pas arrêter, la gare de Manduel, par exemple, est presque terminée, c'est trop tard.
Bien, juste un mot sur cet aspect. La région a demandé, par l'intermédiaire de la présidente Delga, la réunion du comité de suivi du contournement Nîmes-Montpellier qui porte aussi sur la question des deux gares, celle de la Maugère qui est quasiment terminée et celle de Manduel qui est très problématique, en tout cas pour laquelle il y a beaucoup de débats. Cette réunion est enfin actée pour la deuxième moitié du mois de mai. Nous nous y rendrons, Carole Delga et moi-même, avec beaucoup de détermination pour que les réponses soient apportées aux questions qui ne manquent pas d'être largement données dans les différentes rencontres, parce que vous évoquez celle de Nîmes, mais on en a eu d'autres dans lesquelles les questions ont été là aussi beaucoup posées. Donc nous tirons avec cette détermination. Et pour ce qui concerne le Conseil régional, La présidente Delga avait annoncé un moratoire sur le financement de la gare de la Nogère. Ce moratoire est bel et bien fait au cours de cette année 2016.
Merci Jean-Luc pour cette précision. Je souhaitais intervenir à mon tour avec une, pas une demande de réponse, mais je sens effectivement peut-être de votre côté un sentiment de frustration parce que vous êtes là avec des questions pointues, précises, qui nécessiteraient de temps en temps un oui ou un non, ou en tout cas un positionnement clair. Je vous ai expliqué en introduction un petit peu les règles du jeu, mais je pense que Jean-Luc et Aurélie et moi-même, nous sommes encore une fois dans une dynamique de vous amener un maximum d'éléments parce que, au cours de notre rencontre, il y a une phrase qui m'a interpellé de la part d'un syndicat qui nous disait clairement que nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence. Donc, inutile de vous dire que l'équipe de Carole Delga ne sera pas dans une dynamique de vous mener en bateau sur une potentialité d'évolution sur laquelle nous n'en verrons aucune. Ça, c'est la première chose. Nous allons travailler en toute transparence. Nous sommes tout à fait conscients, vous le savez aussi, qu'il y aura certainement des choix à faire, hein, des priorisations, que ces choix, nous serons des élus, nous avons été désignés, nous en prendrons la responsabilité et nous assumerons l'ensemble de ces dates, même dans ce réforme. Pour revenir un petit peu à mon intervention, sachez que c'est plutôt ici, dans un état d'esprit que je voulais décrire, le maire est parti, c'est dommage, parce qu'il m'a tendu une perche par rapport à une réponse. Dans toutes ces interventions, je suis désolé de le dire, mais j'ai l'impression de me trouver dans le département de la Drôme. Quand à un moment donné, dans mes propos, je disais la mobilité doit rimer avec l'attractivité et la solidarité, on est ni plus ni moins en train, en travaillant effectivement sur ces états généraux du rail, à essayer que sur nos territoires ruraux, on parle et on met en place des actions sur le désenclavement de nos territoires. Le désenclavement de nos territoires, permettez-moi de le dire, dans un premier temps, c'est aussi amener un confort de vie, une qualité de vie pour ceux qui y vivent déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est attractif sur le territoire quand effectivement nos services sont cohérents. Service public, service transport, service santé, service école, je vous en parlais, mais ici les élus, c'est notre quotidien. Nous sommes des modestes communes, nous sommes des départements ruraux, c'est pas pour ça que nous n'avons pas le droit de vivre et de rayonner. Les élus de proximité que nous sommes, souhaitons bien évidemment participer activement sur nos communes, au développement et économique, comme ils tiennent nos services publics. Voulez-vous dire par ces mots, au-delà du fait de ne pas encore une fois vous amener des réponses précises à vos demandes, c'est surtout dans l'état d'esprit lequel nous sommes. Le Cévenol, l'Aubrac sont des témoignages, des images de difficultés que nous avons sur certains départements ruraux. Je ne vous cache pas, bien évidemment que la mobilité sur la grande région et la présidente en a fait un grand projet. Il faut que cette mobilité soit accessible au plus grand nombre. Comme tout à l'heure, on parlait de tarification, c'est aussi du social, c'est la tarification sociale. Ne demandez pas si le tarif à 1 euro sera généralisé, est-ce qu'il est pertinent ou pas, est-ce qu'il faut faire des tarifs en fonction du quotient familial. Effectivement, c'est interrogé quand on met en place une billetterie comme celle-ci, comment est-elle accessible, Internet, ça remet en question effectivement des présences au guichet. Tout ça, toutes ces questions seront bien évidemment évoquées. La solidarité, à mon avis, c'est pas aussi uniquement envers des personnes en recherche d'emploi, en étudiant, c'est aussi, permettez-moi de le dire, avec tout le respect que je dois en département, des départements qui sont aussi vieillissants et que la mobilité sur notre territoire, on l'a leur doigt. Et encore une fois, cette mobilité n'aura de sens et ne pourra être cohérente que si effectivement nous travaillons au maintien, au développement du ferroviaire, mais aussi en complémentarité avec l'intermodalité. Il est impossible sur notre territoire de se dire que nous sommes en mesure, je crois que j'avais vu comme un peu d'allusion tout à l'heure, il sera impossible sur notre territoire d'amener de la LGV partout. Mais ce qui ne veut pas dire que notre territoire ne doit pas être desservi par la grande vitesse. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, encore une fois, c'est la prestation. Alors, chez nous, on parle effectivement plutôt d'intermodalité plutôt que de multimodalité. Ça, c'est clair que pour faire le trajet, généralement, on a une possibilité et une multiplication. Mais il faut la faire fonctionner. Il faut qu'elle soit cohérente, cette intermodalité. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'avais aussi évoqué, en tout cas avec les syndicats. Les états généraux du rail auront pris effectivement des engagements sur 15 à 20 ans, pas 5 ou 6 ans. D'accord ? Donc, même si de temps en temps, des remarques, des réflexions, on peut se dire que, je prenais tout à l'heure le cas du scolaire, mais je trouve effectivement, il serait bien de réunir un peu au corps enseignant, et que les voyages scolaires, peut-être dans le premier temps, puissent se faire aussi en train, quand on a la possibilité. J'ai été professeur de sport, pour vous dire qu'on était plus souvent dans la commodité d'aller chercher un car qui venait nous chercher en bas de l'école, qu'on allait sur place et on rentrait alors où on voulait, plutôt que d'aller effectivement déplacer des enfants à une gare, étant donné qu'on était assujetti à des horaires qui ne correspondaient pas. Mais ça, c'est une éducation à redonner. Et je pense que ça, c'est clair que ça paiera dans nos trois ans, mais ça paiera peut-être dans l'éducation de nos jeunes enfants, qui effectivement, si on a été bon, on aura aménagé le territoire d'une manière cohérente, et prendre le train, en tout cas, ou le bus, sera, je dirais, quelque chose de quotidien et une humilité dans tout le monde.
Bien. Je vous remercie. Je vous propose qu'on s'en tienne à cet échange-là, puisque c'est bien qu'on respecte aussi les horaires, d'autant que je sais que la salle est occupée par une autre réunion dans une demi-heure et qu'il faut laisser aussi aux agents de la région le temps de l'arranger. Je veux juste, en un mot de conclusion, évidemment vous remercier d'être venu assister à cette réunion. Vous encouragez bien évidemment à remplir vous-même le questionnaire qui est là. Vous pouvez le remplir en sous forme papier et le donner aux agents de la région qui sont présents avant de sortir. Vous pouvez l'emmener et le poster à l'adresse qui est indiquée, ou vous pouvez le télécharger et lui répondre sur Internet. Puisqu'il y a beaucoup d'élus, je me permets de les inciter à nous aider à remplir ces questionnaires et donc à faire eux aussi largement la publicité dans leurs collectivités respectives pour qu'il y ait beaucoup de questionnaires qui soient remplis. Et puis de nous remettre les contributions des associations, des individus, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes dans cette phase d'écoute, nous avons volonté de la mener jusqu'à son terme, jusqu'au 9 juillet. La dernière rencontre publique est le 7 juillet, nous travaillerons, nous recevrons les informations du 9 juillet, et puis ensuite nous passerons à la phase de rédaction de ces choix que nous présenterons au Conseil régional à l'automne, mais nous aurons sans doute l'occasion de venir rencontrer la population, en tout cas pour ce qui concerne, comme je l'ai dit, les gens engagés et en accord avec Aurélie. Je reviendrai dans le département et je continuerai à donner un certain nombre d'éléments concernant les questions des infrastructures de transport. Merci à tout le monde et bon retour. Pas en train, puisque je sais qu'à cette heure-là, vous n'en trouverez pas, mais à bientôt.